Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 15h à Tananarive, bienvenue à notre journal. On commence par les élections à Madagascar où le dépouillement du vote est en cours après le premier tour de la présidentielle mercredi. Les 36 candidats en lice se disputent le fauteuil présidentiel, dont 4 anciens chefs d'État. Ce scrutin est censé mettre fin aux nombreuses crises qui ont secoué la grande île ces dernières années. Le point avec Morgane Guiriec.
Le dépouillement a commencé hier, dès la fermeture des bureaux de vote. Madagascar ayant un réseau routier délabré, l'acheminement d'une partie des procès-verbaux se fera par hélicoptère. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakoto-Arissou, a exhorté hier les candidats à ne pas annoncer de résultats avant la Commission électorale nationale indépendante et à ne pas se déclarer vainqueur avant le résultat final. Il y a 36 candidats, dont les favoris sont les ex-présidents Marc Ravalomanan, Andra Joël et R. Rajao Narimampian, qui a échappé à 2 destitutions. Monsieur Rajoel, 44 ans, est apprécié des classes populaires et de la jeunesse. Marc Ravalomanan, 68 ans, est perçu comme le candidat de l'intelligentsia. Les premiers résultats provisoires sont attendus d'ici demain matin. La proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. Si aucun candidat n'obtient 50% des suffrages, un second tour est prévu le 19 décembre.
Élection en République démocratique du Congo maintenant. 10 des 21 candidats à la présidentielle du 23 décembre et plusieurs leaders de l'opposition exigent le retrait de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la coalition au pouvoir. Ils accusent M. Shadary d'utiliser à des fins de propagande des biens, des finances et du personnel de l'État. Ses opposants ont fait hier mercredi une déclaration à Kinshasa dans laquelle ils ont appelé à une mobilisation générale contre ce qu'ils appellent des élections chaotiques le 23 décembre avec la machine à voter et un fichier corrompu. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les 13 leaders de l'opposition dénoncent des atteintes à la constitution associées au comportement partial du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui, selon eux, tient à imposer aux Congolais la tenue d'un scrutin électronique au moyen de la machine à voter, voie de vote interdite par la loi électorale, et ce, en se servant d'un fichier corrompu. Les signataires de cette déclaration appellent donc le peuple congolais à user de tous les moyens de droit, notamment des manifestations publiques, pour s'opposer à une parodie d'élection tendant à lui imposer un président de la République, des sénateurs et des députés irrégulièrement élus. En plus de l'utilisation de la machine à voter, les opposants dénoncent l'utilisation des moyens de l'État au profit du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, dont ils exigent l'invalidation de la candidature. 10 candidats président de la République figurent parmi les 13 signataires de cette déclaration, mais une absence a souligné celle de Félix Tshisekedi, candidat président de l'UDPS Tshisekedi. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Rwanda voisin, 22 ans de prison. C'est la sentence requise par le parquet contre Diane Rwigara, opposante et critique du président Paul Kagame. Elle est accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification du document. Précision de John Lyndon.
Diane Rwigara, 37 ans, conteste vigoureusement ses charges. En 2017, elle avait tenté de participer à l'élection présidentielle contre le président Paul Kagame, mais sa candidature avait été invalidée par la commission électorale, arguant qu'elle avait falsifié son dossier. Le parquet a requis 15 ans de prison pour incitation à l'insurrection et 7 ans pour falsification de documents. Depuis son arrestation, l'opposante dénonce des poursuites montées, selon elle, de toutes pièces par le régime pour la réduire au silence. Devant le tribunal hier, Diane Rwigara a réaffirmé qu'elle maintient ses propos qui, selon elle, sont le reflet de son parcours politique couplé à l'appel lancé aux Rwandais de résister à la peur et de parler haut et fort. Le parquet a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère, Adeline Rwigara, pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme. Le verdict dans ces deux affaires sera rendu le 6 décembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, maintenant en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a nommé un de ses hommes de confiance à la tête de l'armée nationale. Les détails avec Raïssa Girondin.
Le général Mohamed Cher Ould Mohamed Lemine, 60 ans, chef d'état-major adjoint, a été désigné chef d'état-major de l'armée, a annoncé hier l'agence mauritanienne d'information. Le nouveau chef de l'armée a notamment dirigé des régions militaires, dont celles de Nouakchott et de Ouagadougou, et commandé l'armée de terre. Il remplace le général Mohamed Ould Cher Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, nommé ministre de la Défense dans le gouvernement formé le 30 octobre par le nouveau Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. Ces changements interviennent après la large victoire lors des élections du 1er et 15 septembre du parti du président Aziz face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewassoul. Mohamed Ould Abdelaziz, un ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009 puis réélu en 2014, doit achever son second et dernier mandat en 2019.
Relations États-Unis-Sénégal. Washington a annoncé hier une aide de 550 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le Sénégal et l'aider à relever le défi de la hausse des besoins en électricité dans un pays en développement rapide. Le Millennium Challenge Corporation, un programme d'aide gouvernementale américain créé en 2004 qui attribue des subventions à des pays engagé vers la bonne gouvernance et la démocratie, a indiqué que le Sénégal allait lui-même contribuer à hauteur de 50 millions de dollars à ce projet. Et ici même aux États-Unis, le président Donald Trump se dit prêt à travailler avec les démocrates qui sont désormais majoritaires à la Chambre des représentants du Congrès après les élections de mi-mandat mardi. Toutefois, le chef de l'exécutif veut que les démocrates renoncent à leur projet d'enquête sur sa présidence et ses finances. Le point avec Abdourahman Dia.
C'était un grand jour, un jour incroyable, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le Parti républicain a défié l'histoire pour étendre notre majorité au Sénat et en déjouant de façon importante les prévisions à la Chambre. Le fait que les démocrates contrôlent la moitié du Congrès rendra les choses plus simples, a-t-il poursuivi. Il y aura moins de paralysie, selon lui. Les démocrates viendront nous voir avec un plan sur les infrastructures, sur la santé, sur ce qu'ils veulent, et nous négocierons. Nancy Pelosi, qui pourrait redevenir présidente de la Chambre en janvier, a estimé que son parti cherchera à travailler avec l'administration Trump, mais a prévenu que la victoire des démocrates à la Chambre permettait de restaurer le contrôle et l'équilibre dans les institutions. Le président a évoqué les menaces d'enquête parlementaire promises par les démocrates, notamment pour obtenir ses feuilles d'impôt. Personne ne publie sa feuille d'impôt pendant un contrôle fiscal. Si les démocrates persistaient, l'État sera paralysé, a-t-il averti. Ce n'est donc que le prélude des combats annoncés sur les deux prochaines années.
Politique américaine toujours, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a démissionné sur demande du président Trump. Les relations entre les deux hommes se sont détériorées depuis mars 2017, lorsque Jeff Sessions s'est récusé dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Les détails avec Eric Manirakiza.
Il s'agit de la première décision du président Trump au lendemain d'élections de mi-mandat qui ont renforcé la majorité républicaine au Sénat mais fait basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Depuis plus d'un an, Donald Trump reprochait à Jeff Sessions d'être un ministre très faible, incapable de le protéger d'une injuste chasse aux sorcières. Depuis mars 2017, Monsieur Sessions était sur la sellette à la suite de sa récusation de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui cherche à établir une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump lors de la présidentielle de 2016. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, supervisait jusque-là cette enquête. Le président Trump a pourtant confié l'intérim à Matthew Whitaker, qui était directeur de cabinet du ministre déchu. En août 2017, il avait publié une tribune dans la presse, reprochant au procureur spécial de s'intéresser aux finances de Donald Trump et appelant Rod Rosenstein à lui ordonner de limiter la portée de son enquête.
Et pour terminer, au Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a quitté il y a une semaine après 8 ans passés dans le couloir de la mort pour blasphème à l'égard de l'islam, mais qui était restée incarcérée jusqu'à présent, a finalement été libérée et amenée en lieu sûr. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.